Substance. Podcast stupéfiant.
Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis et l'étrange phénomène, épisode 4. Grâce à son opération et à son expérience avec l'ayahuasca, Louis s'est débarrassé d'une grande partie de ses douleurs et de sa dépression. Mais un phénomène étrange va lui aussi apparaître dans sa vie. Un phénomène qu'il ne comprend pas, avec des symptômes qui, semble-t-il, n'ont pas été détectés ni classifiés par la médecine occidentale. Un phénomène sans explication, un phénomène sans nom. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
Après tout ça, après la convalescence, j'avais nettement moins mal déjà, mais j'ai quand même gardé des séquelles. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai des douleurs qui réapparaissent, bon, des névralgies un peu, mais aussi des douleurs particulières dans la mesure où elles sont pas localisées au niveau de là où j'ai été opéré ou au niveau de là où j'ai été blessé. C'est toujours sur le dos, mais c'est plus bas, J'ai une espèce de tension très pénible et très oppressante entre les omoplates qui se manifestent de temps à autre. Et alors, un événement très très étrange qui a été le point de départ en fait d'une nouvelle étape dans ce cheminement dans lequel je suis encore actuellement. J'étais chez moi et j'avais cette espèce de douleur là entre les omoplates, cette espèce d'oppression avec le besoin irrésistible de chercher à m'étirer pour essayer de soulager ce truc là. Et à un moment, du coup, je me suis suspendu à une barre de traction pour essayer de m'étirer comme ça. Et ça me faisait du bien, ça me faisait un bien fou. Et là, je prends une grande inspiration pour essayer d'étirer encore plus avec les poumons remplis pour essayer de tirer encore plus sur ce point précis là. Et là ça me faisait tellement de bien et je commence à sentir comme si j'allais faire un malaise vagal, comme si je fais une chute de tension, un truc, mais en même temps ça faisait tellement du bien que au lieu de lâcher la barre de traction, je suis resté suspendu comme ça et j'ai essayé de me détendre. Et là j'ai commencé à monter dans je sais pas trop quoi et j'ai vu une espèce de manifestation visuelle comparable à ce que je peux vivre sous psychédélique, mais sauf que là j'avais pris aucune substance. J'ai vu cette espèce de manifestation pas très intelligible mais bien présente comme une espèce d'hologramme dans mon champ de vision qui était visible aussi bien les yeux ouverts que les yeux fermés, hein, comme avec la DMT ou ces substances là. Et du coup ça m'a surpris, donc j'ai lâché la barre de traction et puis c'est redescendu très vite, ça a duré quelques secondes seulement. Et depuis ce jour là ce truc-là s'est remanifesté régulièrement. Il s'est remanifesté. Moi, au début, ça m'a un peu fait flipper. Donc, j'ai été voir un toubib pour parler de ça. Parce que j'avais peur, en fait, que j'ai bêtement des dommages à la moelle épinière, en fait. J'avais peur de ça parce que l'expérience en question ressemblait pas exactement à un flashback, ce qu'on pourrait s'imaginer d'un flashback de psychédélique. Parce que ça y ressemblait, mais c'était d'une autre nature. Dans la manière de se manifester, je pourrais pas comparer ça à une substance que je connais, par exemple. En tout cas, pas à ce stade-là. Et du coup, je suis allé passer des IRM de tout le rachis, voir s'il y avait pas un problème avec la prothèse, voir si j'avais pas d'autres blessures. Et il y avait rien. Tout était nickel, apparemment. J'ai même été retourné voir le chirurgien pour lui en parler. Il m'a dit, bah non, à l'imagerie, on voit rien, donc il y a rien, donc rentre chez toi, c'est 80 euros, s'il te plaît. Et du coup, j'ai commencé à ce truc là ça m'a intéressé aussi quoi, comme tout le reste, d'autant que quand ça se manifeste c'est systématiquement accompagné d'une sensation de bien-être extrêmement intense, extrêmement profonde et très difficile à décrire, d'autant que c'est jamais exactement de la même manière, c'est jamais exactement les mêmes choses. Quand ça se manifeste, je ressens une espèce de sensation de chaud-froid intense mais en même temps assez tiède, assez confortable. Je sens du truc qui ressemble un petit peu à DMT, que j'ai déjà ressenti sous DMT, c'est la sensation d'avoir la lèvre toute froide. D'avoir la lèvre gelée, des fois ça me fait ça avec la DMT. Là, ça me fait ça aussi avec ces expériences-là. Je sens ce truc dans ma lèvre, une espèce de... Et la sensation d'être parcouru intégralement par une espèce de courant électrique, mais qui est très... qui est pas douloureux, tout le contraire en fait. C'est-à-dire que c'est une douleur qui me pousse à aller faire certains étirements ou aller chercher certains angles avec la colonne vertébrale ou avec la respiration, aller chercher certaines choses dans les muscles profonds. Le truc, je le localise vraiment dans les muscles profonds de la colonne vertébrale, les muscles paravertébraux ou le diaphragme. Enfin, vraiment, c'est profond dans le thorax. Il y a un truc qui est tendu quelque part, et en agissant dessus par le mouvement, donc physiquement avec mon corps, ça déclenche une expérience psychique. Elles sont pas toujours de même intensité, ces expériences. Des fois, c'est très doux. Genre, j'ai pris l'habitude le soir, maintenant, quand je vais me coucher, une fois que je suis allongé, détendu, j'ai pris l'habitude de faire un exercice de respiration qui est tout bête. Hein. C'est juste, j'inspire très lentement par le ventre, en essayant de remplir les poumons le plus possible. Puis là, je bloque et je contracte légèrement les abdos. Et en faisant ça, en fait, ça augmente la pression dans ma cage thoracique, dans mon tronc, et ce truc-là va titiller ce point-là dans mon dos, et ça va déclencher ces expériences-là. Et quand je fais ça le soir, en étant parfaitement détendu, c'est en général assez doux, assez tranquille, mais les jours où je suis très tendu, où j'ai très mal, et où j'arrive pas à penser à autre chose qu'à essayer de m'étirer pour soulager ça en déclenchant ce truc-là, des fois, ça se déclenche de manière très 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 très, très puissante, très forte. Une fois, je rentrais du boulot, c'est pendant les confinements, là, la musique c'était mort, donc je faisais un autre boulot complètement alimentaire, quoi. Et je rentrais là, hyper tendu, j'étais assis sur mon siège de bureau, et je me suis étiré le dos comme ça, en inspirant à fond, et là c'est monté super fort. C'est monté d'un coup en un claquement de doigts, je me suis retrouvé mais au climax d'une énorme perche, quoi. J'étais noyé dans un flash de lumineux, quoi. J'entendais je sais pas ce que j'entendais d'ailleurs, mais j'entendais des sons comme une espèce de tempête psychique dans ma tête, et avec la sensation d'être secoué dans tous les sens. Et à cet instant-là, je me suis dit ok, cette fois je suis mort pour de bon, là c'est sûr. Et j'ai rouvert les yeux quelques secondes plus tard, et j'étais par terre, en train de convulser, avec la bouche en sang, parce que j'avais dû me cogner la lèvre en tombant. Donc maintenant, quand je pratique ce truc-là, je me mets allongé, comme ça, pour éviter de me blesser. Mais il est arrivé des fois que ça s'est déclenché de façon très, 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 très forte, et un peu flippante quand même, il faut le dire, parce que c'est pas douloureux quand ça se manifeste, mais des fois, c'est tellement intense, d'autant que ça vient de nulle part comme ça, je comprends rien sur le moment, que je me suis quand même des fois fait des frayeurs. Mais aujourd'hui, le truc, je le pratique un peu spontanément quand cette douleur, elle revient, parce que bah, il se trouve que quand je le fais, ça atténue la douleur, quoi, tout simplement. Et du coup, je sais pas si ça doit m'alerter sur quelque chose, sur un risque que je prends. Est-ce que c'est dangereux de pratiquer ce truc-là ou pas, ou est-ce que au contraire c'est une invitation à aller le chercher. Je pense que si c'était douloureux, j'aurais appelé les urgences depuis longtemps et j'aurais essayé d'éviter de le faire, de le déclencher. Il se trouve que c'est pas le cas, et jusqu'à maintenant j'ai pas eu de semble pas que ça ait eu des conséquences néfastes, mais par contre j'ai strictement aucune idée de ce que c'est, d'où ça vient, de la raison. Je pense sincèrement que si j'avais pas eu cette énorme perche à ayahuasca, ça se produirait sans doute pas. Mais en même temps, si j'avais pas été opéré, parce que dans l'année qui s'est écoulée entre la perche et l'opération, j'ai pas eu du tout ces trucs-là. Ça s'est manifesté la première fois un mois et demi, deux mois après l'opération. C'est peut-être lié aussi à ça. C'est peut-être lié de façon plus globale à mon vécu. Je sais pas, en fait. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses. C'est juste que des fois, quand ce truc-là se manifeste, la plupart du temps, ça va très vite, ça va très fort, et c'est pas intelligible du tout. C'est-à-dire que je vois des trucs, j'entends des trucs, mais je suis incapable de... C'est complètement chaotique. Sauf des fois. Des fois où, je sais pas pourquoi, ça va se déclencher, et ça va être beaucoup moins chaotique, Et là, je vais voir des choses qui ressemblent davantage à qui ont davantage de forme, un peu comme un trip de DMT, quoi. Pareil au niveau de ce que j'entends. Alors, j'entends pas des voix, hein, c'est pas j'entends pas des voix qui parlent, j'entends plus un peu comme des espèces de chants d'oiseaux d'une dimension bizarre, une espèce de bruit. Enfin, ça ressemble un peu à des espèces de sons, de musique électronique un peu perché, bizarre. Enfin, c'est très bizarre, je sais pas ce que c'est, ça n'évoque rien de connu pour moi. Du coup, voilà, ce truc-là, je sais pas du tout quoi en penser, quoi en faire. Je recherche, j'essaie de chercher des trucs sur le sujet. Alors, on m'a déjà parlé de ce qu'en tradition hindoue on appelle la Kundalini, mais ouais, j'ai un problème avec ça. C'est pas que j'ai un problème avec ça en particulier, c'est que j'ai un problème avec le rapport qu'en Occident on a souvent avec ces traditions-là, notamment avec le New Age. On a tendance à adhérer à des discours et à les répéter comme des mantras, comme si on avait compris derrière de quoi il s'agissait réellement, alors que je pense que ça marche pas du tout comme ça. Déjà, une des choses très importantes que j'ai compris, je sais pas si on peut dire spirituellement, mais que j'ai compris avec ces expériences mystiques, avec ces pratiques-là, c'est que le monde des phénomènes et le monde de la réalité, il n'est pas fait de langage. Et peu importe les éléments de langage qu'on va sortir pour essayer de nous le raconter, pour essayer de nous l'expliquer, le monde c'est pas ça. Du coup, quand on s'intéresse à la tradition hindoue, uniquement pour reprendre les discours sur la Kundalini, sur les chakras, sur les machins et tout, mais qu'on n'a pas le bagage culturel et symbolique pour vraiment comprendre de quoi on parle, je suis pas persuadé qu'on approche à une véritable compréhension de ce dont il s'agit. En tout cas, moi, j'ai pas cette prétention-là. Voilà, en tout cas, je pense pas avoir le bagage le culturel et symbolique pour l'aborder par ce prisme-là. À moins d'être accompagné de quelqu'un qui a ce bagage-là et qui peut me le rendre intelligible. Moi, j'ai un petit peu de mal avec la manière dont la culture occidentale a tendance à s'accaparer des connaissances qui nous dépassent un petit peu. Je me souviens que j'avais lu un bouquin de Carl Jung très intéressant sur le sujet, qui s'appelait Psychologie de la Kundalini ou un truc comme ça. Et moi, un truc qui m'avait frappé là-dedans, c'est que c'est le nombre de concepts, le nombre de termes et de concepts qui existent dans la tradition hindoue, qui désignent des choses pour lequel nous, on n'a pas du tout de traduction. Il faudrait, eux, ils ont un terme, alors que pour nous, il faudrait écrire des paragraphes et des paragraphes pour expliquer ce que c'est. Et on n'a pas le terme. Le terme n'existe pas dans notre vocabulaire. Et je pense que la Kundalini, ça fait partie de ces choses-là. J'ai entendu des points de vue qui disaient que dans beaucoup d'autres traditions mystiques du monde entier, il y a des équivalents de la Kundalini, mais expliquer différemment, raconter différemment. Alors moi, je suis pas expert de ça. Hein. Je peux pas vraiment dire ce que j'en comprends, parce que j'en comprends pas grand-chose. Je suis encore en phase de d'exploration, mais ce que je peux dire, c'est que il faut se méfier un peu des discours. Que le discours, c'est pas la réalité concrète. J'ai raconté une synchronicité assez folle et j'en ai vécu une autre l'année dernière, bien folle aussi, bien barge dans le genre. Et qui, pour le coup, elle a eu et va avoir des répercussions dans ma vie encore d'un autre niveau, quoi. Après le Covid, la musique c'était mort, la culture c'était mort à Paris, c'est compliqué. Moi, il a fallu que je trouve un autre boulot pour alimentaire, et je me suis retrouvé à bosser. J'étais vendeur dans une boutique de CBD pendant 2 ans et demi, 3 ans, C'était rigolo, je trouvais ça intéressant comme boulot. Mais par contre, il s'est produit un truc, c'est que je me suis fait expulser de mon appart en banlieue parisienne parce que le proprio voulait vendre pour des raisons qu'il regarde. Bref, je me suis retrouvé à la rue, quoi. Enfin, pas à la rue, j'étais hébergé à droite à gauche, mais j'avais pas de logement. Et je gagnais un SMIC, j'avais pas assez pour trouver un logement à Paris, quoi. C'était impossible. Et du coup, j'ai passé 8 mois à errer de squat en squat alors que je bossais. Et c'était pas une expérience super cool. Après l'expérience ayahuasca, je me suis beaucoup intéressé à l'ethnobotanique, forcément. Et notamment, j'avais eu vent de parmi toutes les différentes substances entéogènes qui peuplent la planète, j'avais eu vent notamment de l'iboga. Et j'en avais eu vent aussi par un très bon ami à moi qui est initié au bouti. Et qui m'en avait un peu parlé. J'avais pas eu beaucoup d'informations sur le bouti et sur ce truc-là, parce que c'est une tradition orale, il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus, sur Internet on trouve pas grand-chose là-dessus. Mais c'était dans un coin de ma tête, quoi. Et je m'étais dit, bon, ce truc-là, apparemment, il faut aller au Gabon, c'est un truc vraiment... c'est rare, quoi. J'aurais sans doute jamais l'occasion dans ma vie de rencontrer ce truc-là. Fin de la parenthèse. Et du coup, donc ça faisait 8 mois que j'étais en galère de logement, que c'était l'enfer, alors que je bossais et je voyais pas de solution. Et là, un pote, toujours le même pote qui j'ai pris de la psilocybine la première fois, qui m'a donné du LSD et tout, et il m'appelle, il me fait « Hey, j'ai un pote, tu sais, un gars qui t'était allé, on avait fait une soirée et tout dans sa baraque, une maison en province proche de Paris. Il me fait ouais, il y a une chambre de libre dans sa coloc, si tu veux, je te file son numéro et tu l'appelles. » Je fais ok. Donc j'appelle le gars et il me dit il y a une chambre de libre si tu veux et tout, pas de souci. Moi je fais mais c'est combien le loyer? Et il me dit normalement c'est 650, mais là en ce moment il est en promo à 500 euros. Je fais comment ça, lui, en promo le loyer? Il me dit, mais en fait, c'est parce que je sous-loue le jardin. Et le jardin, en fait, t'avais, dans le fond du jardin, t'avais une espèce de décor incroyable. T'avais des ruines d'une église du 11e siècle, avec une espèce de petite tour de magicien en pierre, là, une espèce de petite hutte en pierre comme ça. Et il sous-louait ça à des gens qui organisaient des réunions 2 fois par mois là-dedans. Il m'en dit pas plus. Et ben je fais ok, ils prennent une partie du loyer, donc c'est cool, le loyer est moins cher. Très bien, ben du coup je fais ok, vas-y, moi je suis chaud. Je vais le retrouver pour qu'il me file les clés de la baraque, parce que lui il bossait sur Paris, il était quasiment jamais là-bas. Et c'est un musicien professionnel aussi, il était tout le temps en tournée à droite à gauche, il était jamais à la maison là-bas. Donc je m'installe là-bas tout seul. Au bout d'une semaine, dans cette maison-là, un vendredi soir, donc mon coloc était pas là, il était à l'étranger, il était pas du tout censé être là. Un vendredi soir, j'entends du bruit dans la maison, il y a quelqu'un qui est rentré, quoi. Du coup, je descends, et je tombe nez à nez avec un mec que je connais pas, mais je comprends, je me dis que c'est de venir pour les réunions là, mais sauf que c'était censé être le samedi et là on était le vendredi, donc je comprends pas trop. Et puis lui il était surpris de me voir, il s'attendait pas à voir un nouveau coloc et tout. Et du coup je commence à discuter un peu avec lui, savoir d'où il vient et tout. Et puis je vois que le mec il vient du Gabon. Et je fais ah, genre, je fais mais vous organisez des veillées bouti dans mon jardin? Et c'était le cas. Et en fait j'avais en face de moi, j'avais un initiateur bouti ultra expérimenté, parce que pour être initiateur dans le bouti, c'est en moyenne ça peut aller jusqu'à 30 ans de d'études et de pratiques entre le moment où tu es initié et le moment où tu peux initier. Et du coup des mecs comme lui en France, je sais pas combien il y en a, mais il ne peut pas y en avoir beaucoup. La probabilité pour que dans la situation dans laquelle j'étais, après avoir galéré à chercher des plans, avoir été jeté de plein de plans de colloques potentiels, des entretiens, des machins et tout. Et finalement, le seul point de chute où je finis par réussir à m'installer, t'as des mecs qui pratiquent le bouti dans le jardin. Et du coup, bah, j'ai passé toute la nuit à discuter avec ce mec-là. C'est la première fois que j'avais en face de moi quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle quand il parle de mystique, parce qu'il fait, c'est sa vie depuis des décennies et des décennies. Et du coup, c'était une discussion absolument fascinante. Et le lendemain, ils ont fait leur cérémonie. Moi, je me suis pas tapé l'incrus, j'ai pas osé. Et du coup, le lendemain de leur réveil, ils m'ont dit, bah, pourquoi t'es pas venu? Moi, je suis, bah, vous m'avez pas invité. Ils m'ont dit, bah, dès la prochaine fois, tu viens. Et du coup, deux semaines plus tard, ils sont revenus, ils ont refait la veillée, et cette fois, j'ai participé. Il s'est passé quelque chose de très étrange. Pas pendant la veillée, mais après la veillée. On va dire que c'est la deuxième expérience mystique majeure que j'ai vécue après celle de l'ayahuasca.
Et cette expérience, il va vous falloir patienter encore un petit peu avant de l'écouter, puisqu'il la racontera dans le cinquième et dernier épisode consacré à son témoignage. D'ici là, portez-vous bien.